CFM Cahors, le mag.
Bonjour et bienvenue sur CFM Cahors, c'est l'heure de votre mag. Pour aider à la recherche contre le cancer de l'enfant et le syndrome de Joubert, René Fontaine réalise un parcours de 3587 km en vélo et à travers la France. Il est arrivé hier à Cahors, nous l'avons rencontré. On vous donne une dernière fraîcheur d'été aussi avec une glace à la plancha. Démonstration pour vous dans ce mag. Mais tout de suite, parlons de la place Chapou de Cahors, vouée à se transformer. Bienvenue, vous êtes dans le mag, c'est sur CFM Cahors. La place Chapou de Cahors, elle est connue, hein, parce que non seulement elle contient la cathédrale de Cahors, et puis surtout, elle accueille le marché de la ville. Mais est-elle encore adaptée à un Cahors du XXe siècle? Non, pour la municipalité qui est prête à y faire des travaux. Mais alors attention, pas toute seule. Elle en appelle à l'imagination des citoyens, habitants ou non, la place Chapou. Alors depuis cette semaine, un espace participatif dédié à la réflexion autour du réaménagement de cet endroit est ouvert dans la salle de l'ancienne prévôté, c'est-à-dire juste à côté de la cathédrale. Le premier adjoint au maire en charge de ce projet, Jean-Luc Marx, a accepté de répondre à nos questions.
Bonjour Jean-Luc Marx.
Bonjour.
Alors, là, la première question que l'on va vous poser, c'est pourquoi il faudrait, d'après vous, changer complètement cette place Chapou comme vous le lancez dans ce projet?
En tout cas, la faire évoluer, changer complètement, je ne sais pas, mais la faire évoluer vers un usage qui corresponde plus à nos ambitions dans ce cœur de ville. La place Chapou, c'est quelque part le cœur battant de Cahors. Il y a d'autres places, d'ailleurs, qui ont évolué. Les allées Fénelon, la place des Républicains espagnols, je ne vais pas les citer toutes. Celle-ci, Chapou, elle est tellement emblématique et tellement importante que jusqu'à présent, on n'y a pas touché et elle continue d'être et la place du marché, c'est vrai, mais seulement le mercredi et le samedi matin. Et pour le reste, c'est essentiellement, il faut bien le dire, un parking. Et la place de l'automobile, elle doit évoluer dans la cité, ne serait-ce que parce que l'on constate que nos concitoyens emploient de plus en plus des transports doux et d'ailleurs qu'on les encourage dans cette voie.
Donc vous êtes en train de nous dire que cette place, elle est plus un parking qu'un lieu de vie?
Pour l'instant, oui. Et pour sa partie lieu de vie, elle est, je pense que c'est le meilleur terme, elle est illisible. Lorsque vous cheminez à pied sur cette place, vous ne savez pas où il convient de poser le pied entre tel espace qui est pavé, tel autre avec un macadam très ancien. Il reste des embryons de passages piétons qui ne sont pas particulièrement lisibles. Elle est illisible, cette place. Donc de toute façon, qu'on y laisse ou pas la voiture, il faut la faire évoluer, il faut faire en sorte qu'elle soit plus adaptée à la fréquentation. Je ne dis pas qu'il faut en faire une place de terrasse de bistrot. On voit beaucoup de villes où certaines places se spécialisent en quelque sorte dans les terrasses. Ici, on est à la fois dans une place historique, Chapou, c'est quand même... Quand même, le quand même est de trop. C'est notre grand homme, Chapou, Jean-Jacques, grand résistant. On est au pied de la cathédrale, monument classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On est au pied de la préfecture, une préfecture bâtiment de l'État en plein centre-ville du chef-lieu de département. C'est devenu quelque chose d'assez peu fréquent. Donc c'est tout un ensemble de conditions qui préside à un regard nouveau qu'il faut porter sur cette place.
C'est aussi une complexité du fait qu'il y ait la cathédrale, qu'il y ait tous ces bâtiments. Si mes souvenirs sont bons, on est quand même dans une place sauvegardée.
Tout à fait, on est en plein cœur du secteur sauvegardé. Et pour en ajouter dans la complexité que vous citez, imaginons ce que nous avons sous les pieds. Nous sommes là tous les deux, debout, place Chapou. Qu'avons-nous sous nos pieds? On peut se poser la question, probablement, lorsque viendra le temps opérationnel de faire quelque chose ici, faudra-t-il songer sinon à des fouilles, du moins un diagnostic archéologique pour essayer d'identifier, comme on l'a fait pour le parking de l'amphithéâtre, ce qui a pu exister pendant les siècles précédents. Je crois qu'il ne faut jamais perdre de vue que Cahors, au Moyen-Âge, avait par exemple une université avec près de 2000 étudiants. On a eu une période particulièrement glorieuse. Celle d'aujourd'hui est complètement différente. Il faut tenir compte de ce passé pour inventer l'avenir.
Alors maintenant, vous lancez donc, à partir des journées du patrimoine, une consultation avec les citoyens pour construire cette... construire, ou en tout cas, je ne sais pas si le terme construire est bon ou reconstruire la place Chapou. Quel terme vous utiliserez, vous?
encore une fois, je vais me répéter, il faut la faire évoluer. On ne va pas renier tout son passé. Il y a eu l'époque des années 70, l'époque automobile, l'automobile reine. On ne va pas le renier. C'était l'époque, c'était les 30 glorieuses. Voilà, on doit passer à autre chose parce que les modes de vie ont changé, parce qu'on pense écologie, parce qu'on pense circuit court. Et que, par exemple, le marché que j'évoquais, non seulement, de mon point de vue, il faut le préserver, mais il faut même peut-être encore penser à le développer. Pourquoi pas, pour que ces circuits courts, qu'en alimentation, en agriculture, on encourage, puissent trouver encore des terrains d'expression plus importants.
Alors, comment les citoyens peuvent participer ?
Alors, très concrètement, ils viennent ici, Place Chapou, dans cet espace qui s'appelle la Prévôté. Ils y découvrent une exposition sur l'histoire de la place, sur un avenir possible au travers d'exemples dans d'autres villes. Et puis toute une pièce est réservée à l'expression, avec tableaux, papier, feutres, crayons, où on peut, de façon simple, mais exprimer un projet, une idée, une opposition, que sais-je encore. On sera très transparent, bien évidemment, sur ce qui sera proposé. Et je n'ai pas voulu que l'on fasse un programme, un calendrier gravé dans le marbre sur la façon de présenter, d'exploiter cela. Laissons du temps aussi à cette expression, à l'imagination. Personnellement, je ne sais pas comment sera la place Chapou demain. Je crois que justement, il faut inspirer le projet des propositions que nous aurons, tout en tenant vraiment absolument compte du fait que ce paysage urbain dans lequel nous sommes, il appartient à tous. Il appartient aux Cadurciens, il appartient aux grands Cadurciens, il appartient à tous ceux qui nous visitent. Et donc, il faut vraiment tenir compte de cette ouverture sur les autres.
Il y a cette phase-là, puis après, on imagine qu'il y a une phase d'étude, et puis après, il y a encore peut-être la phase de construction. Enfin bref, quelle est l'échéance que vous vous donnez ?
Le mandat. Nous sommes, Jean-Marc Vessouze l'a dit, je le répète, nous sommes dans une ambition qui est cadré par le mandat qui nous a été confié par les Cadurciens, donc 2020 et les grands Cadurciens, 2020-2026. Nous démarrons là, selon le format que nous venons d'évoquer, 2022 pourrait être consacré à l'étude de programmation, autrement dit, quel est le programme concret sur lequel on s'engage. Et ensuite, on peut imaginer un calendrier avec 2023 les études techniques et les années suivantes les travaux pour aboutir à 2025-2026. C'est un calendrier possible, je dis bien possible. Je ne dis pas que c'est le calendrier qui est écrit quelque part. D'ailleurs, on ne l'a pas écrit. Je le répète, c'est l'ambition du mandat. On va essayer de s'y tenir.
Alors une dernière question qui n'est pas des plus faciles, je vous l'accorde Jean-Luc Marx. Dans des villes comme par exemple à Montauban, où ils ont fait énormément de travaux pour modifier la ville, la réinventer, cette phase de travaux a été difficile pour les citoyens. Comment vous allez concilier cette phase de travaux avec justement une vie presque normale ?
C'est l'un des objets de l'étude stationnement donc, qui est lancée et qui, concrètement sur le terrain, se traduira à partir du 23 septembre par des enquêteurs qui seront sur place, que certains pourront peut-être identifier. C'est, je l'ai dit, la place Chapou, pour l'instant, son usage principal, c'est tout de même une place de stationnement. Je ne sais pas dans quelles conditions on peut améliorer, gérer l'évolution et l'offre des places de stationnement. L'étude doit nous le dire. Mais j'imagine que les préconisations de l'étude pourront nous permettre d'améliorer les choses, de tenir compte de la demande des usagers dans un délai compatible avec un lancement de travaux où seront justement prévues des alternatives. Les travaux s'organisent place Chapou, vous ne pouvez plus vous y stationner. Eh bien, le plan B, c'est point de suspension. J'ajoute pas, mais j'imagine, même si c'est compliqué à Cahors, on doit pouvoir trouver des façons de faire avec une rotation par exemple peut-être plus accélérée de certains stationnements, avec une offre nouvelle dans tel ou tel secteur qui nous permettent de mieux gérer cette phase, vous avez raison, où les travaux peuvent perturber la vie quotidienne. On le voit d'ailleurs sur certains chantiers, Cahors, il y a quelques chantiers d'ouvert. On a un chantier dans le quartier du 21e siècle où se passent aujourd'hui des fouilles archéologiques. On ne peut pas exclure qu'un jour il y ait ici, au-delà même du diagnostic, un temps plus ou moins long de fouilles archéologiques. Ce n'est pas exclu. Et donc il faudra faire avec. Mais ce temps, il est aussi profitable. Les citoyens et les citadins, d'ailleurs, en particulier, le savent.
Et le résultat risque d'en valoir la peine aussi.
Absolument. Nous sommes, encore une fois, je le, redit dans le cœur battant de cette ville, et où il y a une concentration de beauté. C'est une belle ville, on me le dit souvent, c'est ce que j'entends comme président de l'Office du tourisme Cahors-Vallée du Lot, c'est une belle ville, et parmi les pépites que nous détenons, il y a celle-ci, la place Chapeau, c'est une pépite.
Merci beaucoup Jean-Luc Marx.
Avec plaisir.
Alors pour participer à la conception de la place Chapeau de demain, rendez-vous à l'ancienne prévôté. C'est situé juste à l'entrée de la cathédrale et vous avez jusqu'au 17 octobre pour faire parler votre imagination. Le syndrome de Joubert est une affection d'origine génétique touchant le cervelet et le tronc cérébral. Et pour aider à la recherche contre cette maladie et du cancer de l'enfant également, René Fontaine est parti le 16 août de sa ville de résidence, Barcelonnette, c'est dans les Alpes-Maritimes. Son but est de parcourir 3587 km en vélo afin de recueillir des fonds. Alors ce membre du Rotary Club est arrivé à Cahors hier, c'était une ville-étape. Il a été accueilli par les deux clubs rotariens de la cité cadurcienne et surtout, il a accepté de parler de ce projet au micro de CFM.
Il vient d'arriver pour la 37e étape sur 48 dans le cadre d'un projet avec le Rotary Club. Et c'est René Fontaine. Alors, qui est René Fontaine? Pourquoi il fait cela? Vous allez comprendre. C'est pour la bonne cause, bien évidemment. Et il est avec nous, arrivé à Cahors ce soir. Bonsoir, René Fontaine.
Bonsoir.
Alors, vous êtes d'où habituellement?
Alors, moi, j'habite Barcelonnette. Et donc, je suis à la retraite, puisque j'ai 75 ans et demi. Je me suis mis au vélo à l'âge de 60 ans quand j'ai vendu mon commerce. J'étais pâtissier chocolatier, meilleur ouvrier de France. Et donc, je connais donc ces deux petites filles pour lesquelles je fais cette démarche. La première, c'est une petite qui a à l'âge de 2 ans et demi, qui s'appelle Élise, qui a le cancer des os. Donc, quand je l'ai vue après ses chimios, qu'elle avait perdu tous ses cheveux, quand on voit des enfants comme ça, ça fait mal au cœur. Et l'autre petite, c'est la petite fille d'un de mes copains qui a le syndrome de Joubert. Le syndrome de Joubert est une maladie assez rare puisque c'est un cas sur 100 000. C'est le cervelet qui ne se développe pas, qui est atrophié. Donc c'est physiologique, neurologique. Donc c'est des enfants qu'il faut accompagner en permanence toute leur vie.
Le cancer des os, c'est vrai qu'on le connaît plus. Par contre, c'est vrai que le syndrome de Joubert, il est encore méconnu.
Oui, c'est très méconnu. Tout le monde nous pose la question, qu'est-ce que c'est cette maladie, c'est vrai. C'est une maladie qui rentre dans les maladies nouvelles. Voilà, et donc, qui a aujourd'hui cette petite, elle a 23 ans. On ne connaît pas jusqu'à quel âge ils vont vivre, mais on espère qu'ils vivent assez longtemps, bien sûr.
Alors René Fontaine, du coup, vous avez décidé de parcourir presque une bonne partie de la France quand même, parce que je crois que vous allez aller jusque Brest. Vous y êtes déjà allé?
D'est en ouest, parce que Barcelone était complètement à l'est, puisqu'on est tout près de la frontière italienne, à 20-25 km. Et donc, je suis passé par Nice, parce que mon copain est de Nice, qui est le papy de la petite fille de Nolwenn. Et on est après remonté par Moulins, parce que je suis né à Moulins, donc pour rencontrer ma famille aussi en passant. Donc c'était un itinéraire un petit peu dans ces conditions. Et après on est passé jusqu'à Carré, Brest, parce que mon copain Daniel et la petite Nolwenn sont nés aussi en Bretagne, puisqu'à Lokirec. Et donc je suis redescendu par la Baule, Nantes, et aujourd'hui là on est à Cahors. Donc après ça va être Toulouse, Mende et on va remonter sur Barcelonnette. Voilà 48 étapes, 3600 km.
Ce qu'il faut préciser, c'est que vous êtes parti depuis le 16 août. Ça fait un mois que vous êtes sur la route.
16 août, oui, le départ. Et il y a une moyenne de 70 km tous les jours. C'est la moyenne. Bon, il y a des étapes un peu plus courtes, mais d'autres qui sont plus longues et plus difficiles. Surtout quand c'est sous la pluie, en plus, c'est pas facile. Comme avant-hier, c'était très, très mouillé. Voilà.
Et comment vous allez-vous alors, du coup, là, aujourd'hui?
Je vais bien. On prend notre temps aussi. On part le matin sous le coup de 9h30. Quand on a fait 1h30 de vélo, si on passe dans un village et qu'il y a un bar, on s'arrête pour le café. Voilà, on prend un petit peu notre temps. Après, on s'arrête un petit peu pour manger un petit bout à midi à la voiture. Et puis, selon l'heure d'arrivée, c'est 16h ou 17h. Donc, on fait en fonction. Voilà, on fait une petite pause.
Ce qu'il faut bien préciser, c'est que vous êtes accompagné quand même, parce que vous avez besoin quand même d'une assistance. On ne sait jamais quand on fait un gros parcours comme ça. Vous pouvez nous parler de vos coéquipiers?
Alors, mon copain Daniel, c'est pas mon copain Daniel, parce que Daniel, en question, qui devait faire le périple avec moi, a fait un AVC il y a 2 mois, donc interdit de conduire. Donc, comme il avait fait une association SOS Nolwenn, donc Alain, qui m'accompagne, faisait partie de cette association. Donc, c'est lui qui conduit, qui me protège, parce qu'il y a la gyrophare, il y a les sponsors qui sont collés sur la voiture, donc on voit très bien la voiture. Donc, je suis devant, Donc je suis protégé par la voiture. Voilà. Donc lui, il se permet de prendre plein de photos qu'il envoie sur notre secrétaire à Barcelonnette. Donc si on veut voir tout le parcours tous les jours, on peut le voir en faisant Rotary Barcelonnette. Donc tout le monde peut suivre le parcours tous les jours. Voilà. Et on est parrainé par Sophie Anquetil, qui est la fille de Jacques Anquetil.
C'est bien, vous posez les questions voilà. Pour moi, c'est bien.
Voilà, il y a Valérie Fignon qui a été la femme de Laurent Fignon qui est décédé il y a maintenant 11 ans. Voilà. Et puis Patrick Montel qui était commentateur à la télé sur l'athlétisme sur l'antenne 2. Hein, voilà.
Alors, expliquez-moi René Fontaine, pardon, expliquez-moi comment ce parcours peut aider à la recherche. Comment vous faites pour recueillir des dons, parce que c'est ça le but.
Oui, alors on recueille des dons parce qu'il faut savoir aussi qu'on a des cyclistes qui viennent nous accompagner, qui nous accompagnent le matin et qui viennent nous attendre le soir à l'arrivée, qui nous font des dons. Il y a des particuliers qui donnent et tous les Rotariens participent aussi. Voilà.
Et là, vous êtes, quand je regarde le chemin, demain c'est pour Montauban, le 24 Toulouse, en fait vous êtes encore jusqu'au 2 octobre.
2 octobre, oui.
Le moral, il est encore ancré là, ça va?
Oui, très bien, bon, très bon moral. Quand il pleut, c'est des journées tristes, hein, mais on a eu que 3 journées de pluie sur la totalité du parcours pour l'instant, donc ça se passe bien, hein, il faut accepter comme c'est, hein, voilà. On roule quand même sous la pluie, hein, voilà. Mais le moral est très bon parce qu'on est super bien accueillis dans tous les Rotariens, chez tous les Rotariens, c'est ce qui est super.
Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que vous faites partie du Rotary Club hein, de Barcelonnette et que du coup, tous les Rotary Clubs des villes que vous traversez vous aident.
Oui, 28 années de Rotary, 3 fois président. Donc, je suis rodé sur le Rotary, hein, voilà. C'est une famille, le Rotary.
Mais comment il a bien fallu vous entraîner quand même, parce que faire 3000 km comme ça, d'un coup, il y a eu un moment de préparation.
Oui, oui. Et alors, je fais du vélo depuis 15 ans hein, maintenant.
Oui, mais enfin bon.
Le dernier mois avant de partir, je faisais du vélo tous les matins. Minimum 600 mètres de dénivelé, c'était le minimum, jusqu'à 900 000 mètres. Mais j'ai fait ça pendant un mois, ce qui fait que ça m'a permis de faire assez facilement, finalement, les parcours. Là, hein. Oui, oui.
On peut suivre votre parcours, hein, j'ai vu sur la page Facebook Rotary Barcelonnette.
Aussi, oui.
Et c'est un lien qu'on peut donner aussi?
Tout à fait, sur Facebook et puis Rotary Barcelonnette, voilà. Hein. Ça se diffuse très bien, voilà.
Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour le reste du parcours?
D'avoir toujours des dons, le beau temps et tout se passera bien, voilà.
Merci beaucoup René Fontaine et puis...
Je sais qu'on est très très attendu maintenant à l'arrivée, ouais. Voilà, parce qu'il y aura la petite Élise qui sera là avec ses parents. Et puis malheureusement il n'y aura pas Nolwenn, mais on a des grandes images de Nolwenn qui seront là, présentes, voilà.
En tout cas vous avez montré que vous n'avez pas que des jambes, vous avez aussi un grand cœur et peut-être que justement c'est ça qui vous permet de tenir jusqu'au bout.
Ah oui, je suis quelqu'un de très simple et de grand cœur, c'est vrai.
En tant que chocolatier, vous avez pu découvrir des bons chocolats quand même sur votre parcours?
On n'a pas bien eu le temps.
je me doutais de la réponse, mais on tente, on ne sait jamais. En tout cas, merci beaucoup René Fontaine d'être passé sur Cahors.
Merci, merci beaucoup.
Et René Fontaine donc qui part aujourd'hui direction Montauban, et puis demain de Montauban, il ira jusqu'à Toulouse, le 24 de Toulouse jusqu'à Albi, le 25 de Albi jusqu'à Rodez, et ensuite il reprendra la route pour rejoindre donc Barcelonnette. Et si donc vous pouvez suivre également son parcours donc sur la page Facebook du Rotary Barcelonnette et puis sur rotarybarcelonnette.fr, il y a également le lien pour envoyer vos dons en faveur de la recherche contre le cancer de l'enfant et le syndrome de Joubert. Ah, c'est gentil d'être avec nous sur le mag de CFM Cahors et pour vous récompenser, pour vous remercier, pour vous prouver que cela nous fait plaisir, on vous donne encore des saveurs d'été alors que l'automne vient d'arriver. Par exemple, une glace à la plancha, ça vous dit? Rencontre avec Gaëlle qui fait des glaces à la plancha dans les différentes manifestations, les fêtes et autres. Vous allez voir qu'avec très peu d'ingrédients, on a énormément de goût. Mais au fait, Gaëlle, qu'est-ce que c'est qu'une glace à la plancha?
CFM Cahors, le mag.
Alors la glace à la plancha, c'est une plancha qui givre jusqu'à moins 30 au maximum et on pose les ingrédients, fruits ou gâteaux en direct sur cette plancha et je travaille le fruit, les gâteaux devant vous et pour faire des rouleaux de glace.
D'accord, alors on essaye ?
On essaye.
Allez, alors du coup dans un premier temps, donc là Elou, on voit qu'effectivement la plancha elle est givrée. Hein. C'est vrai que je vais vous montrer à la radio, donc c'est une plancha qui est complètement givrée, d'ailleurs ça se voit, voilà. Donc là, tu mets...
Je vais mettre des morceaux de kiwi nature et un peu de sucre de canne par-dessus, et je vais le travailler ensuite avec des spatules.
Donc allons-y, voilà, les kiwis sont dessus. Ça, c'est du sucre canne liquide.
Liquide.
C'est ça qui fait la matière première, en fait, c'est pas du lait. C'est ça qui va faire la contenance.
Pardon, c'est d'une version sorbet. Donc ça va être du fruit et du sucre de canne pur et dur. Ensuite, on peut avoir une version crème glacée avec du gâteau, du fruit et du lait de la crème que je rajoute par-dessus. Et c'est le même principe. Je vais hacher le fruit ou les gâteaux au fur et à mesure sur la plancha et ils vont givrer au fur et à mesure.
On sent déjà que dans la manière, tu as de plus en plus de mal à le bouger, à le manipuler quand même.
Oui, parce que ça givre, il faut être assez rapide tout en regardant la transformation du fruit pour pas qu'il reste collé à la plancha. Moins 30, ça peut coller très vite. Et il faut arriver, l'objectif c'est d'arriver ensuite à l'étaler, et à faire des rouleaux de glace.
D'accord, donc là, tant que tu sens que tu peux encore le malaxer, en quelque sorte, tu vas le malaxer.
À la couleur, il va givrer, il devient de plus en plus blanc. Donc à la couleur, je vais voir à un moment donné qu'il est temps d'étaler pour pouvoir ensuite rouler sans que ça reste collé à la planche.
C'est impressionnant parce que on se dit que là, il y a quand même une plaque qui est à moins 30, que là, elle vous fait des classes à la demande directement. Alors là, elle étale un petit peu, j'imagine, c'est pour regeler un peu plus.
C'est pour regeler et la glace va se préparer. Je l'étale, je fais une fine couche, la couleur va changer, va devenir un peu plus blanc et à un moment donné, je vais rouler.
D'accord. Alors c'est très difficile, hein. Je vais prendre une photo, mais c'est très difficile effectivement pour vous de vous le transcrire en radio. Mais honnêtement, c'est assez impressionnant. Donc du coup, elle est en train d'essayer de les rouler. Et là, on voit que ça fait des petites lamelles de glace finalement. Et quand on sait qu'au début, c'était simplement des fruits et du sucre de canne liquide. Donc, et là, du coup, ouais, les rouleaux sont là alors.
Donc là, les rouleaux sont faits, on les met dans des petits pots et il n'y a plus qu'à déguster après. Il faut piquer et croquer. Voilà.
C'est même pas une cuillère, quoi, c'est un pic.
C'est un pic.
Bon, je pense que je vais être condamné. Il n'y a plus. Merci Gaëlle. Alors voyons voir. Alors comment tu le manges? Tu prends comme une fourchette?
Voilà.
Bon, alors attention.
Il y a de ces plateaux.
Ouh la vache. Alors, je vais vous dire franchement, ce qui diffère. C'est que par contre, le goût du fruit, du coup, il est très présent.
Très présent parce que la glace, le fait qu'il n'y ait que du fruit, un chouïa de sucre de canne, c'est le fruit qui ressort. On a l'impression d'un fruit glacé, en fait. Voilà, il n'y a pas cette impression de sucre tout le temps. Alors si, de temps en temps, parce que c'est fait de façon aléatoire, le sucre, il se disperse un peu de façon anarchique. Donc on peut tomber sur un petit morceau plus sucré, un petit morceau plus fruité. Voilà, c'est ce qui fait, je trouve, le charme de cette glace.
Et franchement, vous devriez l'avoir, l'affaire, c'est d'une rapidité parce que c'est un ingrédient qui se malaxe très rapidement du fait qu'elle est quand même sur une plancha qui givre à moins 30 degrés. Bref, si jamais un jour vous avez l'occasion de déguster les glaces à la plancha, et bien surtout, il ne faut pas vous priver, au contraire, c'est délicieux. Vous avez des objets dont vous ne vous servez pas, et bien vous souhaitez vider votre grenier, votre garage, tout en faisant une bonne action. Déposez vos dons, que ce soit des meubles, des livres, des objets, des vêtements de puériculture, des jeux, à la résidence Dolt à Cahors, en face de Gamme Vert. Ils seront vendus au bénéfice de l'animation des résidents lors de la vente solidaire qui aura lieu le 2 octobre, toujours à cet endroit-là. On aura l'occasion forcément d'en reparler. Donc là aussi, faites le tri, videz vos greniers, tout ce que vous ne voulez plus, débarrassez vous-en et comme ça vous ferez en même temps une bonne action. Et puis ça y est, hein, nous sommes en automne et ce dimanche ce sera la 4e fête de l'automne à l'écomusée de Cuzal, c'est à Sauliac-sur-Célé, avec un programme qui va se dérouler de 10h à 19h, deux saisons forcément, l'atelier de l'imprimeur typographe, on vous montrera le pain d'automne avec la chauffe du four, le pétrissage, le façonnage, puis la cuisson et enfin quand même la dégustation, des démonstrations de vannerie d'osier, des échanges sur l'agriculture d'hier et d'aujourd'hui. On parlera du safran, on vous fera découvrir le métier de bouilleur ambulant. Il y a une exposition glorieuse années 60, le troc aux plantes, la cuisine kersinoise, atelier balade ethno-botanique, visite de ferme, jeu de cartes pour les grands, bref, les couleurs d'automne sont à cet écomusée de Cuzal. Le plein tarif est de 5 euros, gratuit pour les moins de 12 ans et c'est toute la journée de ce dimanche de 10h à 19h et c'est à Sauliac sur Scellé. Plus d'informations sur lot.fr. C'est la fin de ce magazine à réécouter tout à l'heure en rediffusion à 17h ainsi qu'à 21h30. Vous restez avec nous, bien entendu, les programmes continuent dans un instant le journal.